Yana qui prépare ma fée, yana qui prépare yassa, yana qui fait le domada, yana qui prépare notre triple céleri tchéboudjen.
Mais ça, c'est trop bon!
L'épisode, c'est bon, hein?
C'est délicieux.
Pour bien manger de la soupe de gombo, il faut être prêt. Et c'est très gluant, c'est. Certains le mangent avec les mains, justement, en trempant dans la sauce une pâte ou du riz. Hein. Ça peut être du foufou.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. On a beau le dire souvent, l'oublier. Pourtant, oui, on a de l'or sous les yeux. Des céréales, des plantes, des coutumes que l'on oublie, attirées par les lumières d'ailleurs. Pourtant, il y a de l'or, oui, tout autour de nous, des produits qui font rêver de ce côté-ci de l'hémisphère. Prenez par exemple la poudre de baobab que l'on découvre à peine à Paris. On est là, ah, poudre de baobab, extraordinaire dans les magasins bio. Ça coûte une fortune. Bouille qu'on boit sans même y penser quand on est à Bamako, Dakar ou même Ouagadougou ou Cotonou. Bonjour Aruna.
Bonjour Clémence.
Aruna So, chef cuisinier à la Résidence, le restaurant du Refugee Food Festival, c'est à Paris, à Ground Control, près de la gare de Lyon, dans le 12e, donc à l'opposé de là où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous êtes chef formateur aussi, d'origine mauritanienne. Faut-il partir pour se rendre compte, Aruna So, de l'or qu'on a sous les yeux et sous les pieds?
Souvent, on cherche de l'or partout, alors que l'or, il se trouve juste à 50 cm. Mais après, c'est de l'or, comme c'est des ressources précieuses, il faut faire le tour du monde pour trouver. Bon, dès qu'on se décale un petit peu, on sait que c'est pas une petite tonne d'or, mais c'est des milliers de tonnes d'or qu'on a sous les yeux. Malheureusement, on a tendance à les oublier.
Comme si on se rendait pas compte, en réalité.
On cherche toujours ailleurs, hein. C'est
l'heure
comme ça.
L'ailleurs est plus beau.
Voilà, comme ça, on se dit que ailleurs c'est plus beau, ailleurs l'herbe est plus verte, alors que c'est faux.
Ça, il faut bien s'en rendre compte.
C'est ça.
Bonjour Georges Abel.
Bonjour Clémence.
De notre bureau à Dakar, RFI Dakar, et Georges est un gourmand curieux, un voyageur. C'est Georges qui m'a initié à de nombreuses coutumes et goûts africains. Vous êtes en ce moment à Bamako, au Mali. Qu'est-ce qui fait le buzz dans les rues ouest-africaines en ce moment?
On va dire que c'est la tendance aux grillades, en fait, parce que vers la fin de l'année à Bamako, il y a des festivals de grillades qui se préparent. C'est ce qui fait un peu le buzz, parce que c'est aussi l'occasion pour les amis de se retrouver autour de grillades au bord du fleuve Niger.
Alors, ce qui est rigolo, Georges, et là je rigole parce que vous ne savez pas, enfin si, parce que je vous en ai parlé, Kalilou Terira est avec nous, c'est un auditeur fidèle du Goût du Monde, depuis toujours, et ça fait, je pense, 2-3 ans maintenant qu'on s'échange des photos de grillades. Bonjour Kalilou.
Bonjour Clémence, bonjour à tous nos invités.
La grillade malienne, quelle place a-t-elle dans votre cœur?
Pour moi, lorsqu'on parle de grillade, on parle aussi des brochettes. C'est le petit déjeuner de la plupart des Maliens, avec des concombres, les légumes, et ainsi de suite.
Georges, petit déjeuner, la grillade, la brochette, c'est ça, avec des crudités, du concombre et de la salade?
Très important, les grillades, la viande, le pain, c'est la base aussi. Donc la viande, c'est très apprécié ici à Bamako, au Mali. Le Dibisogo, comme au Mali et au Sénégal également, ce sont des grillades, on les appelle les rôtisseries, qu'on retrouve au bord des avenues, puis des ruelles. Et ce sont des mets très très appréciés des Maliens et des Sénégalais.
Mais est-ce que c'est ancien, les grillades? Est-ce que nos parents, grands-parents mangeaient déjà des grillades? Est-ce que c'était déjà dans les coutumes?
Pour moi, c'était déjà dans les coutumes. Hein. Généralement, du côté de ma maman, en tout cas, quand on prend les communautés du nord du Mali, on prend les Sanraï, par exemple, ils sont connus comme étant ceux qui apprécient le plus la viande, la grillade accompagnée d'un verre de thé. Il y a aussi les Tamashek qui sont très reconnus pour cela. Donc ce sont des gourmandises très appréciées du côté des Maliens.
Kalilou, vous aussi au Bénin, est-ce qu'on se régale de grillades le matin ou c'est totalement exceptionnel?
Je dirais généralement, on le fait occasionnellement. Au Mali par exemple, on sait que, comme le disait Georges, c'est un plat qu'on utilisait depuis longtemps dans des cérémonies, surtout les tabasquets et les ramadans. On peut aussi griller du saké, poisson braisé, et crevettes braisées, ainsi de suite.
Aruna So, vous, votre enfance a été bercée de quel type de plat?
Nous, on était talibés, les enfants de l'école coranique, donc on mangeait le reste. Mais sachant que je viens dans une famille peule, Du coup, nous les Peuls, on n'aime pas tuer nos bêtes. Donc, du coup, on mangeait moins de grillade parce qu'on ne pouvait pas aller consommer tout le temps de la viande grillée. Et on partait beaucoup sur du poisson grillé. On mangeait beaucoup, sachant que maintenant, les gens, ils mangent pas mal de la viande grillée. Mais si on retourne un petit peu en arrière, c'était beaucoup de plats végétariens, des légumes grillés comme le manioc sous le cendre. Après le déjeuner, il y avait les restes de cendre qu'on mettait du manioc dedans et des patates douces. Nous, c'est ce type de grillade qu'on consommait avant. Et maintenant, c'est la viande, malheureusement. Et je pense que ça va pas trop durer parce qu'il y en a de moins en moins. Même ces fêtes de Tabaski, on consomme beaucoup de viande, mais vu qu'il y avait la crise du coronavirus, donc il y avait moins de moutons acheminés à Dakar, où ils ont fait avec. Mais je pense que là, il y a une solution vraiment qu'on retourne un petit peu en arrière à consommer les patates douces, les légumes tubercules. Je pense que ça peut remplacer la viande parce qu'on sait que dans quelques années, il ne va pas y avoir pour tout le monde.
Oui, c'est pas bon pour la planète déjà de manger trop de viande. Puis accessoirement, la question que je vous pose à tous les trois, la viande c'est cher, non?
Oui, pour une famille qui est en Afrique de l'Ouest, ça représente un énorme budget. Parce que quand moi je pars là-bas, si je paye un poulet 4000 francs, je sais que c'est trop cher de manger un poulet 4000 francs. C'est l'équivalent de 7 euros et quelques. Pour une famille de 12 personnes, c'est impossible. Et ça sent que les moutons, c'est pareil. Dans les capitales, c'est, je sais qu'au Mali, c'est moins cher, mais si on comparait au Sénégal, c'est impossible.
Georges Abel, combien ça coûte un pain brochette à Bamako?
Quand on l'achète dans les gargotes du quartier, on va dire que c'est dans les 100 à 200 francs l'unité. Donc plus, on va dire du pain pour 75 francs CFA ou pour 100 francs CFA. Des fois, on ajoute aussi un peu de frites ou bien d'aloco. Donc ça nous fait quelque chose de 300 à 400 francs CFA, en fait, le petit-déj. Pour ceux qui veulent manger des brochettes, sinon pour le petit-déj aussi, il y a la bouillie de mil, donc qui est aussi appelée araou au Sénégal, et avec du lait, on l'appelle aussi le larceau, c'est du lard avec...
Un peu de lait concentré, non?
Lait. Oui, c'est ça, avec du lait concentré, des fois on peut remplacer par du yaourt ou bien du lait caillé, voilà, c'est très bon aussi.
Parce que ça, c'est traditionnellement, c'est ce qu'on mangeait le matin. Une céréale avec peut-être un peu de lait ou du lait concentré. Et ce genre de produit le matin avec des haricots aussi, non?
Normalement, nous, à notre enfance, c'est ça qu'on connaît. Un peu de bouillie, un peu de bouillie maïs. En France, on retrouve sous forme de polenta, mais un peu plus liquide, comme disait Georges, avec du lait caillé. On trouve ça beaucoup dans les gares ou sinon les personnes qui partent travailler dans les usines, ils prennent ça parce que ça...
Ouais, c'est consistant.
Ouais, c'est consistant. Et ça peut tenir pour une personne qui travaille jusqu'à 18 heures pour repartir à la maison pour prendre son déjeuner.
D'accord. Et Kalilou, d'ailleurs, vous, c'est quoi le petit déjeuner? Il y a de la bouillie aussi, mais pas de mil.
Très généralement, côté bouillie, nous préférons la bouillie de maïs, qu'on appelle généralement foucou. Très souvent accompagné de galettes et un peu de cacahuètes aussi. C'est beaucoup plus résistant.
La question que j'ai envie de vous poser, quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, qu'on a la possibilité d'avoir d'un côté la bouillie, d'un côté la brochette, on va miser sur la brochette, j'imagine?
C'est sûr, c'est sur la brochette, parce que c'est un peu... On met ça de l'avant, on dit que c'est un peu luxe. Et ça sent qu'il y a des maisons, quoi. Moi, comme je viens du, au fond du village, souvent, il y a des, certaines familles, s'ils mangent que du bouillie le matin... On va les taxer de familles pauvres ou sinon de familles qui veulent pas manger à leur faim. Ça sent que pour moi, ces genres de trucs, il faut qu'on arrête, ça veut rien dire. Manger du bouillie, pour moi, je préfère... aujourd'hui, je peux acheter mon déjeuner normal. Mais s'il y a une brochette et bouillie à côté, c'est sûr que je vais prendre le bouillie. Déjà, un, c'est consistant. Et deux, c'est pas de la viande. Et... trois, c'est bon pour la santé.
Et alors, ce que vous me disiez, Georges, en préparant cette émission, pourquoi est-ce que le jeune, lui, va plutôt aller vers la brochette, indépendamment du fait que c'est bon?
En fait, c'est aussi pour changer de ce qu'il a à la maison, parce que très souvent, on a la bouillie à la maison, on a aussi ce qu'on appelle le riz couché, c'est-à-dire que c'est le riz ou le plat, le dîner de la veille qu'on réchauffe le matin pour manger. Des fois, c'est du thon, c'est une pâte de maïs avec du gombo comme sauce qu'on réchauffe pour manger le matin, parce que nous, on ne veut pas jeter le reste. Et c'est très bon aussi le riz couché, mais les jeunes préfèrent manger plutôt des brochettes ou autre chose parce que ça change un peu de ce qu'il y a à la maison, en fait.
Bah, après, c'est dans le parcours, de, j'ai envie de dire, d'un jeune qui a envie de se détacher de ses parents. Mais comment est-ce qu'on fait pour rendre un peu plus, donner le buzz à la bouillie
Je pense que c'est la cuisine ouest-africaine. La cuisine de maison n'a pas suivi cette cuisine street food. Parce qu'on y va, on achète la brochette, c'est street food, c'est rapide, on peut manger ça là, dans le chemin de l'école ou de l'entreprise. Sachant que si un jour on arrive à transformer la cuisine familiale à une cuisine street food, on peut intégrer ça facilement dans nos habitudes du petit déjeuner.
Oui, c'est ça. La clé, c'est l'adaptation, la transformation. Essayer en fait de rendre, comme avec une photo de nourriture, on peut faire une très jolie photo qui donnera envie ou le contraire.
Oui, de faire des, par exemple, le bouillie, de faire des cornets, des trucs faciles à manger. Et aussi, il y a tout cet aspect visuel, parce que moi, manger de la bouillie sur un chemin de la route, comme on fait maintenant, je pense que ça, les jeunes, ils ne vont pas accepter ça. Il y a toute cette partie emballage, cette partie transformation, qu'on travaille beaucoup sur le visuel pour qu'on puisse attirer. Parce que maintenant, les gens, pourquoi ils mangent des sandwichs, une brochette grillée, c'est facile à manger et l'emballage est souvent très joli, c'est ça en fait.
Ouais, vous confirmez, Georges ?
C'est effectivement ça, en fait. Puis, il y a le côté prix aussi. Quand il y a de la bouillie dehors, et puis on se dit, ouais, mais pourquoi je dois acheter de la bouillie à 200 francs alors que j'en ai déjà à la maison ? Et puis, quand c'est au bord de la route, ça ne fait pas forcément classe. Et du coup, on ne peut pas partager les photos de sa nourriture sur les réseaux sociaux.
Et du coup...
ce qui est très important aussi maintenant.
Il y a un aspect de la bouillie, Kalilou Terira, dont on voulait parler. Qu'est-ce que représente la bouillie que ne peut pas apporter une brochette mangée dans la rue, par exemple, Kalilou ?
Oui, la bouillie, par exemple, c'est quelque chose qui est consommé en famille. Par exemple, chaque matin, là, l'habitude de prendre la bouillie ensemble, c'est quelque chose de social, de traditionnel, de manière générale. Bon, ça se fait le matin, dans la journée. Lorsqu'on a une petite faim, bon, on a envie de manger encore, bon, là... On ne peut pas retourner vers la bouillie qu'on a précédemment mangée à la maison. Là, on préfère, comme le disait Georges, beaucoup de gens iront à la brochette. Les bouillies, ce sont des repas un peu populaires, quoi. Ce qui fait qu'on n'a pas trop l'habitude de voir une photo de bouillie postée sur Facebook et qu'on sort. Bon, ça se mange dans toutes les familles.
Tout
c'est pas trop luxueux, quoi. Alors qu'une brochette avec des oignons, des concombres, c'est beaucoup
mais
plus
vous,
joli.
Je sais que vous, vous adorez les brochettes. Merci beaucoup, Kalilou. Merci d'avoir été avec nous. Une bouillie, partager une bouillie, être ensemble dans une famille, ça veut dire qu'on va avoir les enfants, les parents ensemble. Et ça, c'est de plus en plus rare, peut-être, à Rounasso.
Bouillie, en fait, ce plat, c'est au moment qu'on le consomme, c'est une forme d'apprentissage de l'art de vivre qui se transmet de génération en génération. Et ce moment de partage qu'on essaie de mettre au centre de la famille, je pense que si aujourd'hui tout le monde va prendre les brochettes dans les riz, le grand-parent, il va dire que le jour où je partirai, tout le lien social que j'ai pu travailler pendant des années pour qu'il existe, il n'y aura plus. Mais je vais quand même rassurer les grands-parents. C'est pas parce qu'on va manger dans la riz qu'on va renier tout ce tissu de lien social. Par contre, au niveau des bouillies, comme maintenant en Europe, surtout en France, la cuisine africaine est en tendance. Donc du coup, on va perdre tout cet art de vivre au détriment des autres. Par exemple, les brochettes qu'on mange, je pense que dans la culture africaine, on s'identifie beaucoup plus aux bouillies qu'à la brochette.
Du monde. Clémence de Navi.
One for one do. Hey, ina wana wana ta kotindol. Akonde mana yali alio. Akonde ale mana alio. Dine panko wanado inna wana wana da ko tindol
akonde mana yali alio akonde ale mana alia
kolahi
koni ya koni 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 ya koni koni warna koni ya koni 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 ya koni koni warna Yedine garde riu alio yedine garde rau alio yene o imiñan tanto gele ma
Conny avec Ernest Stranglin sur RFI, Conny de Babamal, vous écoutez le Goût du Monde, bienvenue si vous nous rejoignez, nous parlons évidemment de ce que nous mangeons et surtout on essaye de voir un petit peu et de revoir, d'ouvrir les yeux et de découvrir qu'on a de l'or autour de nous, de l'or à manger, de l'or à partager. Toute une tradition, un savoir-faire alimentaire, des produits aussi incroyables en Afrique, et qu'il est grand temps de s'en rendre compte et de profiter de tout ça.
Après, c'est à nous, jeunes, d'essayer de transformer ça et donner l'envie que pour que la génération future puisse avoir le plaisir de manger le bouilli en allant à l'école.
Oui, c'est ça. Sois fier de ça. Même sans être fier, en fait, que ça redevienne une partie d'identité ou quelque chose qu'il apprécie, en tout cas, que ça redevienne un plaisir.
Oui, un plaisir et aussi avec beaucoup d'identité derrière. Parce que si vous partez dans nos ethnies, si vous êtes soninké, on vous dit, oui, vous mangez de la bouillie derrière. Tout ça, c'est casser cette base d'ethnie, parce que nous, les Peuls, ils disent que vous mangez du sombi. Sombi et le bouillie, c'est pareil, sauf que nous, on mange à la place du maïs. Et il y en a qui font ça au sorgho. Les gens, ils s'identifient. Dès que vous dites une personne, il est Bambara, on sait qu'il a mangé du thau le matin. Et pourquoi pas tout le monde puisse manger ça sans s'identifier à une ethnie.
Ouais, Georges, je vous entends dire.
Non, je partage complètement ce que Haroun a si bien expliqué. Surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que la bouillie, ça se mangeait tous ensemble autour d'une tasse. Et puis, chacun avait son galama, comme on dit au Mali, chez nous. C'est une louche qu'on utilise pour boire la bouillie. Traditionnellement, c'est fait dans la même matière que les calebasses, en fait.
Je vous propose d'écouter Charlotte Ndoy, qui est sociologue et qui travaille pour le pôle sécurité alimentaire à l'ONG Endagraf Sahel à Dakar, et Charlotte Konkombo Yomeago, qui est l'ingénieure au Centre national et technique du Burkina Faso au département technologie alimentaire. Elles insistent sur le fait, elles travaillent évidemment sur tout ce qui est alimentaire et courant, sur le fait d'adapter justement la nourriture ancienne, les traditions, et notamment en ville.
En milieu urbain, il faut quand même parler de réadaptation gustative des mets traditionnels. Parce que c'est ça aussi qui fait le succès des actrices. On ne reporte pas en l'état du milieu rural au milieu urbain et ses mets. Si je prends le babenda, par exemple, il est réadapté et on lui met d'autres ingrédients en venant d'ailleurs, on utilise d'autres ingrédients et c'est ça qui fait qu'il y a une forte notoriété de ce produit aujourd'hui, une forte acceptation de ce produit.
C'est quoi le bavenda?
Une sauce à base de légumes et de céréales. À l'origine, c'était le sorgho, mais maintenant c'est le riz et c'était les feuilles de haricots. Maintenant, c'est le moringa qui est issu du maraîchage urbain. À l'origine, c'était une source de soudure identifiée à travers des contraintes climatiques et tout, de sécheresse et tout. Et maintenant, ça devient une source qui devient nourriture dans la logique moins verte. Au lieu d'une nourriture de contrainte, il devient nourriture de plaisir et de choix.
Vous approuviez?
Effectivement, l'adaptation est toujours là. Je vous ai parlé du ndambé, par exemple, qui était un plat très élaboré, très simple, à base de ñébé. Mais aujourd'hui, quand ce plat revient à ville, on ajoute des ingrédients, des tomates, même de la viande, pour permettre justement de moderniser un peu par rapport au goût des urbains. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que de plus en plus, il y a des créations, des innovations que les gens font, associer des légumes qui avant n'étaient pas dans certaines sauces, et c'est ça qui permet justement d'avoir de meilleurs goûts.
Donc est-ce que la clé c'est transformer, adapter à Runaso?
En fait, parce que notre culture culinaire a perdu une bataille, parce que l'agriculture n'a pas suivi notre gastronomie. Donc, on a perdu une bataille. Après, il ne faut pas qu'on perde la deuxième bataille. C'est à nous d'intégrer tous ces nouveaux aliments qu'on commence à cultiver, du fait du changement climatique, tout ça. C'est à nous d'intégrer ça dans nos habitudes de consommation. Comme elle parlait du sorgho, maintenant on voit rarement du sorgho. Il n'y a que du riz, il y a beaucoup de sésame qu'on cultive beaucoup à côté de Mboro.
Le sésame, d'accord.
Oui,
okay.
Au Sénégal. Donc pourquoi pas mettre dans notre sombi, rajouter des graines de sésame, on sait que c'est bon pour la santé. Tout ça, qu'on ne le cultive pas pour l'exporter, on le cultive pour intégrer ça dans notre mode d'alimentation.
Georges Abel, ça a trouvé un écho également chez vous, les propos de Charlotte et de Fatou?
Oui, c'est très très important. Personnellement, ça m'arrive d'ajouter des haricots verts dans un plat, par exemple dans du yassa. Je sais que j'ai des houtes dans du fakou oï, c'est un plat aussi très apprécié.
Au Mali, oui.
Oui, j'ai des amis qui me disent « Qu'est-ce que tu fais là ?»
Mais c'est ça, en fait. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'on ne peut pas changer le plat traditionnel. Si on change... Moi, j'ai fait, par exemple, une fois un mafé de légumes. On m'a dit « Mais attends, un mafé, il y a de la viande, forcément. »
Tout ça, en fait, ça change rapidement. Mais à la base, le mafé, c'est un plat végétarien.
Ah, à la base, c'est végétarien.
C'est végétarien. Quand j'ai discuté avec mon père, il a dit « Moi, le mafé, je l'ai toujours mangé végétarien, avec beaucoup de gombo dedans, sans la viande. Mais aujourd'hui, même nous, au restaurant du Ground Control, on nous reproche de faire le mafé végétarien. Donc, c'est à nous de le proposer. Et c'est une alternative aussi aux beaucoup de familles qui veulent manger végé ou sinon qui ne peuvent pas se subvenir tout le temps de la viande. Pour même retourner aux traditions, aussi, c'est un synonyme de faire beaucoup d'économies, avec beaucoup de plaisir derrière autour des casseroles.
En fait, il faut arriver à trouver la petite clé, vous disiez le sésame tout à l'heure, parce que le sésame, on en est très gourmand de ce côté de l'hémisphère, enfin au nord, on mange du sésame en Tahiti, on s'est beaucoup inspiré des cultures du Maghreb, et donc il faut, ouais c'est ça, pimper un peu quand on...
Toutes ces cultures de sésame, c'est pour cela que je dis, il faut qu'on soit prêt pour ne pas perdre la deuxième bataille, parce que quand j'étais au Sénégal au mois de janvier, j'ai croisé, il y avait des personnes qui cultivaient le sésame, mais qui ne savaient pas c'est quoi.
Ils son cultivaient. Utilisation.
En fait, c'est juste cultivé pour exporter. Ah. Donc oui, ils ont venu pour cultiver, pour exporter. Donc c'est à nous de dire, oui, vous nous avez transmis la manière de cultiver le sésame, mais nous, on va intégrer ça dans notre mode d'alimentation. Et il y a beaucoup de légumes maintenant qu'on cultive en Afrique de l'Ouest qui ne trouvent pas leur place dans la gastronomie locale. Ça sent que ça peut remplacer beaucoup de légumes. C'est pas pour changer, nier notre culture, mais c'est de ne pas encore perdre une deuxième bataille.
C'est l'enrichir, en fait. Quels sont les légumes qui sont maintenant produits au Sénégal, par exemple, et qui n'ont pas leur place dans la gastronomie?
Surtout dans la zone de Niaï, il y a beaucoup de brocolis que les gens, ils ont du mal à reconnaître ou à cuisiner parce que c'est des produits un peu fragiles qu'on peut pas mettre à braiser dans nos plats. Mais ça sent qu'on peut intégrer facilement ça dans le couscous, le râper pour gonfler son couscous.
Dans la salade?
Ouais, dans la salade, amener un peu de fraîcheur et aussi de gourmandise, parce qu'actuellement on consomme beaucoup de légumes verts. Tout ça, c'est une alternative derrière.
Georges, du brocoli alors?
Oui, j'en ai vu aussi dans un champ ici à Bamako. Et l'agriculteur en question, il m'a dit sa clientèle cible, c'est plutôt des expats en fait. Parce qu'il n'arrive pas à l'écouler auprès du Malien lambda, donc il en cultive, mais ça ne passe pas. Donc c'est un peu compliqué pour certains d'essayer de diversifier aussi au niveau de ce qu'ils cultivent en fait.
Oui, de leur production, bien sûr. Ouais. Bah, il faut avoir quelqu'un qui achète, sinon à quoi bon produire, j'ai envie de dire.
Il faut avoir quelqu'un qui achète et aussi il faut avoir beaucoup de personnes derrière qui ont eu cette expérience un peu française ou d'autres pays de comment les transformer, parce que les gens, ils sont partis, toute cette compétence de les cultiver dans ces pays-là. Par contre, ils n'ont pas été suivis. Est-ce qu'ils cultivent pour exporter ou vendre ça à leurs partenaires ou à des expatriés? Et moi, je trouve ça dommage, sachant que les cultivateurs, ils ont juste leur salaire derrière, souvent très mal payé, et tandis qu'ils font pas cette agriculture avec beaucoup d'amour. C'est, pour moi, je trouve ça dommage. Et du coup, nous, on sera là pour transmettre toutes les compétences pour dire, par exemple, le brocoli, on peut mettre dans le mafé, le sésame, on peut l'intégrer facilement dans nos petits déjeuners pour lutter tout cette manque d'autosuffisance alimentaire.
Bien sûr. Alors, ce qui est génial, c'est quand on se dit, en vous écoutant, que c'est le rôle des cuisiniers, en fait, de construire ces recettes et de les mettre au goût du jour, tous ces nouveaux produits, les intégrer dans la cuisine et remettre au goût du jour toutes ces céréales qu'on a oubliées.
Ça, c'est un rôle de cuisinier d'aller expliquer, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mange dans les restos. Du coup, c'est les cuisiniers de jouer leur rôle dans les familles, ou de se montrer beaucoup plus convaincant, parce que les gens, on l'explique, mais après, est-ce qu'ils sont convaincus? Ça, c'est autre chose. Donc, c'est à nous de démontrer ça.
J'aimerais qu'on parle du riz, parce que le Sénégal est presque à l'autosuffisance en matière de riz, mais c'est du riz long, du riz local. Alors qu'on a une habitude de riz brisé, importé. On rappelle juste en deux mots, les importations au Sénégal, c'est 70% des produits consommés. Alors là, on rêve. Et on se dit, il y a du riz, mais on ne va pas le manger parce qu'il n'est pas brisé et parce qu'il n'a pas ce petit goût du riz jasmin.
En fait, surtout le problème du riz, ça, c'est notre héritage colonial. Parce que pendant la guerre Indochine, la France exportait beaucoup de riz et il y avait toute cette brisure qu'on envoyait dans les colonies. Et donc, ça a resté ça dans l'empreinte des gens, qu'on a cette culture de manger le riz brisé. Alors que c'est faux, avant il y avait le riz long ou le riz qu'on cultivait dans les rivières, espèce de riz sauvage. Et tout ça, il y a cette forme de ne pas vouloir intégrer notre propre agriculture dans notre culture gastronomique. Parce que maintenant, si vous partez dans la vallée du fleuve Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Nahé, il y a toute cette culture de riz long, mais les gens, ils ont peur de le cuisiner ou qui n'ont pas tout simplement envie d'aller de l'avant, d'essayer des nouvelles choses. Et ça, je trouve ça dommage. Alors que si on commençait à consommer cette riz qu'on cultive chez nous en Afrique de l'Ouest, on serait pleinement autosuffisance et aussi créer beaucoup d'emplois derrière.
Oui, complètement. Georges Abel, vous en mangez du riz long quand vous êtes à Dakar?
Oui, le riz de la vallée, comme on l'appelle. Moi, je me rappelle, j'en ai déjà acheté. Et je devais manger avec un ami, il m'a dit je ne mange pas ce riz parce qu'il n'avait pas l'habitude de manger du riz long et il trouvait que ça n'avait pas le même goût que le riz brisé qui vient d'ailleurs en fait. Donc je pense qu'il faut aussi mettre en place un accompagnement aussi de la sensibilisation pour inciter les gens à consommer ce riz local. Il faudrait aussi expliquer pourquoi consommer ce riz local. Moi, personnellement, je suis plutôt fan du riz de la vallée au Sénégal. Déjà, voilà, c'est local et puis c'est bon.
Ouais, je vais vous raconter. Dans le goût du monde, on a reçu un monsieur qui cuisine à la vapeur avec un instrument qui ressemble à une couscoussière. Bon, si on n'a pas goûté la viande cuite à la vapeur, on se dit, ouais, bof. Mais quand on goûte, on réalise qu'en fait, elle est juteuse, elle est fondante, qu'elle a plein de saveurs et tout ça. Donc, au-delà de l'explication par les mots, faudrait goûter, concevoir des recettes, inventer.
Oui. En fait, nous, le problème de la cuisine ouest-africaine qui est fait dans les familles ou dans les restaurants, on a cette peur de cuisiner pour que le plat ne soit pas mangé. Donc, est-ce que les personnes qui font de la cuisine, elles sont prêtes à essayer des nouvelles recettes? Je pense que c'est ce genre de trucs qu'il faut mettre en place, d'essayer. Ou sinon, les cultivateurs de faire des promotions, des ateliers de cuisine dans les villages, dans les villes, même dans les entreprises, d'accompagner toute cette transformation, toute cette intégration de leur culture dans nos habitudes de consommation. Et ça, pour le moment, c'est pas fait. Je pense que c'est pas juste question de pouvoir public, c'est à nous de transmettre ce message, c'est à nous d'aider à cette intégration, parce qu'on sait que derrière, ça représente beaucoup d'emplois.
Il faut que la jeunesse y trouve en fait un intérêt, en fait, qu'elle se dise la clé, elle peut être là, et ça peut être aussi la clé pour nous de pouvoir travailler et rester au pays.
Oui. Le goût du monde. Clémence de Navi. Ko antan wolimi
konjidin mi oduna aduna what me you
in a cold light I live to love and adore you it's all that I am it's all that I have in the cold light I live I only live for you it's all that I am it's all that I have
Bruno Joignet, vous écoutez le Goût du Monde, There Will Be Time de Mumford & Sons. Il y aura le temps pour ça, le temps pour... J'ai envie de dire un peu depuis le début de cette émission, c'est un peu mon sentiment, grande frustration, le temps pour la révolution. Hein, il faut qu'on ouvre les yeux, il faut qu'on se rende compte, non ? Allez, jeunes, quoi !
C'est la nouvelle ère. Hein. Par exemple, je vois qu'il y a des jeunes qui sont prêts à ce combat-là. Donc, la volonté est là, alors que c'est à nous d'aller très vite, sinon on va être mangé par les grands. Pourquoi je dis grands ? On voit le Sénégal ou le Mali. La Corée aujourd'hui, ils étaient les mêmes positions que le Sénégal dans les années 90. Donc c'est à nous maintenant, d'ici 15 ans, d'être à la place du Corée du Sud. Donc c'est à nous d'aller vite pour avoir cette autosuffisance alimentaire.
Mais au-delà de ça, trouver un peu de séduction pour donner envie à quand on a 15, 20 ans, qu'on habite à Dakar, à Bamako ou à Cotonou, qu'on se dise, ben tiens, moi j'ai envie de manger cette bouillie avec peut-être un peu de shawarma avec. Et qu'elle donne envie, que quand je publie sur les réseaux sociaux, et ben, tout le monde trouve que ça a l'air super bon. Susciter cette envie-là.
Oui, il faut sortir de cette cuisine familiale à une cuisine un peu plus urbaine, à une cuisine un peu plus festive. Parce que les gens maintenant, à chaque fois ils mangent, mais ils mangent avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc ça commence d'abord par l'aspect visuel des choses. Et si on commence à manger l'aspect visuel des choses, du coup, on va commencer à s'intéresser d'où vient c'est que les composants de l'assiette. Et le jour où on arrive à imaginer les composants de l'assiette, je pense qu'on peut créer beaucoup de trucs derrière.
Alors, j'ai pas juste reprécisé, Haroun Asso, vous êtes chef cuisinier à la Résidence, qui est le restaurant du Refugee Food Festival, et en ligne de Bamako avec nous, il y a Georges Abel, qui est de la rédaction de RFI à Dakar, au Sénégal. Georges, qui est gourmand, ça on l'a dit, je devrais pas le dire tout le temps, n'est-ce pas, Georges? Mais aussi, est-ce que vous avez le sentiment que les jeunes avec lesquels vous parlez, d'ailleurs dont vous faites partie, Georges, sont prêts à donner un grand coup de vent sur leur alimentation, ou alors justement ils ont du mal à s'émanciper de ces clichés luxe, de cette idée que ailleurs c'est meilleur?
Déjà à Bamako, je constate qu'il y a des plats qui sont considérés comme exclusivement réservés à la maison qui de plus en plus se retrouvent sur les tables des restaurants. On a des restaurants dans les quartiers d'affaires de Bamako comme à Assé 2000 qui proposent des plats comme le Wujila, c'est un plat très très apprécié au nord du Mali. Il y a aussi des restaurants qui font le furu-furu, ce sont des beignets qui d'habitude sont mangés à la maison, mais qui se retrouvent de plus en plus dans des restaurants. On a aussi un peu le retour, on va dire, même si c'est un peu timide, mais du poulet local que les jeunes commencent à apprécier à travers des restaurants qui sont chics, mais qui proposent ces plats qui n'étaient pas forcément vus comme des plats qu'on irait manger au resto.
Ça commence
à prendre doucement. Oui, il y a une tendance qui est là parce que on a beau faire des burgers, des frites surgelées, ça n'a pratiquement rien de spécial. Tu ne vas pas conquérir le reste du monde avec des burgers, en fait. C'est déjà connu, c'est déjà une marque déposée, en fait.
Sauf si c'est des burgers qui viennent, par exemple, j'imagine un burger qui vient typiquement du Mali, ça peut me convaincre. Mais juste un burger, ça sent que les frites, ils sont coupées en Belgique. Ça, c'est Georges, vous avez bien raison, on peut convaincre personne sur ces plats.
Ouais, donc frites de patates douces, frites de manioc, frites d'igname.
Frites d'igname, un pot d'aloco, ça c'est bien.
Et un pain aussi. Alors, vous avez fait une découverte récente à Rounasso d'un pain à la farine de manioc.
C'est un pain qui est fait au Bénin. J'ai regardé ça en reportage. Jusqu'à présent, je cherche la personne.
Donc, on lance un appel. Ouais. Qui fait ce pain à Cotonou?
Ça m'intéresse beaucoup. En fait, il a intégré sur sa recette de pain 70% de farine de manioc. Il cultive lui-même ses manioc. Imaginez, c'est une boulangerie. Il fait lui-même sa farine. Je sais que je suis ici à Paris. Il n'y a pas une boulangerie qui fait sa propre culture de blé et de raffinage pour faire du pain, alors qu'on a cette sens Bénin. Donc, c'est ce genre d'initiative qu'il faut qu'on mette en place. Même si on mange un burger tartiné avec une petite compotée de beurre de karité, on peut dire que c'est un burger qui vient de chez nous.
Tout à fait, avec un pain aussi, je pensais au pain malien notamment, les pains vapeur, Georges.
J'ai été surpris en début de semaine. J'ai retrouvé le pain qu'on fait traditionnellement à Tombouctou en vente dans une boutique, dans les kiosques de quartier. Donc, ce sont des pains qui sont traditionnellement faits dans les rues de Tombouctou parce que presque toutes les grandes familles ont leur four traditionnel fait en banco. Et donc, j'ai retrouvé ce type de pain en vente à Bamako dans des épiceries de quartier. C'est cool, j'ai bien apprécié.
Une bonne surprise.
J'étais un peu surpris, c'est vrai.
Parce qu'on a le tapalapa aussi, qui est ce pain qui est
en Guinée
et surtout au Sénégal, à Dakar, je crois qu'il y a un mélange de farine de blé et farine de maïs.
C'est le tapalapa, c'est fait par les Guinéens qui sont au Sénégal. J'aime bien ce genre de pain. En plus, c'est un pain qui est au feu de bois. Bon, on sait que maintenant, on n'a pas beaucoup de bois, malheureusement, mais on pouvait intégrer toute cette recette-là avec des machines. De toute façon, qu'on garde quand même la tradition, la culture de la recette. Mais ce pain-là, il est très difficile à trouver dans les zones urbaines. Même dans les petites villes maintenant, tout le monde a cette envie de manger des boulangeries industrielles.
Moi, d'accord. Le goût pour le pain blanc, qui n'a pas de mâche en fait, qui est du vent.
Il n'y a pas de mâche, il n'y a rien du tout. Le pain tapalapa, pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont ici en France, ça ressemble beaucoup à la baguette traditionnelle.
D'accord, ça a le look de la baguette, mais ça n'a pas le goût. Et puis ça tient bien, je crois qu'on peut mélanger ça aussi avec une poêlée de haricots niébés et de la tomate.
C'est pour les étudiants qu'on mange au petit déjeuner une petite tranche de pain lapa-lapa avec haricots, une compotée d'oignons, une sauce tomate. Et ça, on voit tous les jours.
Et on est bien pour la journée. Un petit jus de bouille.
Un petit jus de bouille ou de bissab.
Ou de bissab, de gingembre. Là, on a toute l'énergie. Ouais.
Une tasse de café, en général, c'est ce genre de truc. C'est fait dans on s'appelle ça maïga. En Dakar, ils disent ça vient des maïgas et moi j'adore. Et ça a tendance à disparaître, je trouve ça...
Dommage.
Ouais.
Donc il va falloir faire ressurgir les maïgas. Vous avez rencontré Georges Lucrèce Gandingbé que vous avez interviewé pour nous. Elle est blogueuse béninoise installée à Dakar et elle ne pense pas que la solution réside dans le fait d'adapter ou transformer pour plaire aux critères occidentaux nos plats africains.
Revisiter les cuisines africaines. C'est une bonne idée, mais selon moi, ce n'est pas le meilleur moyen de vulgariser les cuisines africaines. Est-ce que ça veut dire que c'est la bonne manière de procéder lorsque nous utilisons les techniques culinaires qui viennent d'ailleurs? Pour montrer du bissap à un Italien, est-ce qu'il faut aller vers le sorbet? Est-ce qu'il faut faire un burger de chenille pour faire découvrir les chenilles? Moi, je pense que ça dénature déjà le produit. Et puis... ça ne nous permet pas de montrer la cuisine qu'on veut montrer dans sa façon la plus authentique. Il y a une nouvelle génération de cuisiniers qui ne manque pas de créativité. Mais pour se défaire des préjugés comme quoi la cuisine africaine est trop grasse ou elle n'est pas assez raffinée, etc., ce qui reste des préjugés, il faut aller plus loin que de simplement revisiter ou d'installer nos produits dans le confort des techniques culinaires d'ailleurs, comme faire un coulis de tamarin pour des desserts, alors que ce n'est pas vraiment la manière dont nous on a l'habitude de consommer le tamarin. Il faut montrer comment est-ce qu'on le consomme dans sa façon la plus authentique d'abord, pour pouvoir l'exporter réellement.
Lucrèce, donc elle a parlé de votre burger de Chitoumou, de chenille, mais je dois avouer quand même que sans burger, on n'aurait pas goûté. Donc ce burger-là a fait qu'on a pu goûter, ici en tout cas, les chenilles de karité, Georges, on est d'accord?
Oui, mais en fait, elle soulève une question. Quand je l'ai interviewée, je me suis aussi demandé si il fallait forcément revisiter ou non. Bah, elle posait la question, si, au lieu que les gens qui veulent découvrir s'adaptent au plat, est-ce que c'est au plat de s'adapter plutôt à ceux qui veulent goûter? Mais peut-être que le chef saut pourra nous éclairer là-dessus.
Aller plus loin.
En fait, la question de revisiter, tout ça dépend la zone géographique d'où on est ou la personne qu'on veut donner une expérience. Par exemple, si je suis en France, je sais qu'il y a des éléments que je trouve ici, je peux facilement revisiter nos plats. Mais si je suis en Afrique, je sais que j'ai tout autour les éléments qui composent ce plat. Pour moi, on peut rester sur les recettes authentiques et avoir cette force de vouloir donner du plaisir. Je pense avec cette volonté-là qu'on peut vraiment transmettre ce qu'on a envie de dire. Mais si on commence à revisiter nos propres recettes avec des aliments qui viennent d'ailleurs, je pense qu'on a perdu cette bataille. Par exemple, si je vais là-bas pour faire une blanquette de veau, ça, je peux revisiter la recette parce que ça n'engage que moi, que je suis au Sénégal ou au Mali. Ça n'engage pas que je suis en France, je veux dénaturer leur cuisine. Parce qu'en fait, il faut partir sur cette base d'adaptation de produits ou de géographiquement là où on habite. Pour être au Sénégal, mettre du mafé avec d'autres aliments qui viennent de l'autre bout du monde, ça, je trouve pas ça très intéressant. Mais si je suis en France, oui. Par exemple, si je suis là, si je fais la promotion du fruit de baobab, je sais qu'actuellement, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est pas bien. Il faut que je trouve ici en France, je fais des recherches pour trouver des aliments qui se ressemblent un petit peu. Pas trop les faire la promotion pour ne pas priver les autres. Par exemple, si je fais beaucoup la promotion du sorgho ici, je sais qu'il n'y aura pas à Bamako. Même on a cette tendance d'oublier nos propres aliments. Et si les Européens, ils commencent à les consommer, je m'inclus dedans ici, il y a toute cette... comme si je luttais contre l'autosuffisance alimentaire.
D'accord, c'est ça. Il faut penser d'où vient l'aliment avant de se dire on va se ruer sur cet aliment. Par exemple, le fruit du baobab dont vous parliez, qui coûte une fortune ici. Oui. Donc si tout le monde se met à manger des fruits de baobab et des jus de baobab et des bouillies de teff, ça va pas pouvoir être possible pour ceux qui le produisent, parce que du coup, ça va inverser la tendance.
Et il va pas y avoir assez pour les gens qui habitent à Naé ou même à Kaï, ça c'est sûr. Parce que même nous, les villageois, nous-mêmes, on a cette tendance de vendre, toujours de vendre et ne pas penser à notre propre consommation. Et si nous, on est là à faire cette promotion, il va rester rien pour nos familles.
Tout à fait. Donc là, on est vraiment dans un esprit de réinterpréter les recettes en Afrique pour introduire, en tout cas, ou redynamiser, redonner envie, en fait, de l'envie à ceux qui vont les consommer, de manger une bouillie le matin et qui sera appétante et qui donnera envie. Et quand on a 15 ans, on va rester chez soi, manger sa bouillie ou l'acheter dans la rue, mais en tout cas, que ce soit un plus. Georges Abel, vous êtes un fan de pain, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a séduit récemment?
Récemment, en fait, il y a des délices qui ne se démodent pas, qu'on redécouvre plutôt. Par exemple, au Sénégal, on parle beaucoup du tchèp, mais pour moi, la base, en tout cas au petit-déj, c'est le pinton ou bien le beignet d'ougoup. Au Mali, on va beaucoup parler des plats revisités, mais il y a aussi des plats qu'on a l'habitude de manger depuis notre tendre enfance. J'ai envie de dire qu'on ne trahit pas, parce que ce sont des plats qui nous ont tellement bercés ou qui nous ont accompagnés pendant les récréations ou les pauses à l'école primaire, comme il y a ce qu'on appelle le fari, qui est fait à base de niébé et qui est souvent accompagné de sauce oignon ou des fois qu'on met dans du pain. Donc ce sont des plats qu'on redécouvre parce que on a tellement passé du temps avec ces plats que ce sont presque une partie de nous-mêmes, en fait, rien qu'en les mangeant, on se remémore des souvenirs ou des moments agréables.
Ouais, et notamment ce petit cornet avec les arachides à l'intérieur, n'est-ce pas?
Je valide.
Le copain des cours de récré. Haruna, si... vous avez, vous, trois fermes, vous avez monté trois fermes, c'est ça, au Sénégal?
On a monté une ferme pour nous déjà et une espèce de coopérative qu'on puisse acheter tout autour la culture d'autres personnes qui produisent mais qui n'arrivent pas à vendre ça à des grossistes ou qui n'arrivent pas à vendre ça à des prix très attractifs. Déjà, il y a cette manque de cette chaîne froide. Et nous, là, on commence à faire des champs froides pour qu'on puisse déjà... mettre à l'abri notre propre production et aussi la coopérative. Sachant que je rappelle qu'on ne fait pas de bénéfices sur la coopérative.
Qu'est-ce que vous produisez dans cette ferme?
Là, on produit beaucoup de tomates et beaucoup de piments parce qu'on sait que maintenant, même dans le piment, ce n'est pas juste alimentaire. Même dans le cosmétique, il y a toute cette industrie qui demande le piment. Donc, en plus de ça, c'est des haricots verts, parce qu'on sait qu'il y a tout cette manque de légumes verts qu'on cultive moins. Il n'y a que des feuilles. À part les feuilles, c'est les haricots verts. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas ne pas surproduire les haricots verts pour que les gens, ils consomment ça. Ça, c'est l'idée pour que les gens, ils puissent...
Pour mettre le haricot dans l'assiette.
Ouais. Et moi, les haricots, je les intègre bien grillés, au lieu de le faire comme on a l'habitude de les cuire dans de l'eau. Moi, ça peut remplacer les accompagnements des frites ou des bananes locaux. Juste griller comme ça, c'est super bon.
C'est parfait. D'accord. Est-ce que vous nous partageriez une recette là que justement on pourrait réintroduire dans les foyers africains avec une céréale peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez l'idée d'une?
Par exemple, maintenant c'est la saison des récoltes. Il y a beaucoup de mil. Moi, je veux bien une petite galette de mil accompagnée d'une petite compotée d'haricots grillés. Je vais griller les haricots verts à la grille et les piler au mortier pour que la galette ne soit pas trop sec. Je pense qu'on peut consommer ça facilement sur le sommet de l'école ou de l'entreprise.
Ouais, comme un sandwich de galette de mil. Est-ce qu'on mettrait une petite sauce peut-être, non?
C'est la compotée d'haricots verts qui remplace la sauce. En fait, les galettes de mil, c'est comme des falafels. C'est juste le mil, on le trempe dans de l'eau jusqu'à 24 heures. Et ensuite, on n'a pas de, il n'y a pas beaucoup de familles qui ont des blenders ou des mixeurs. Il suffit juste de l'écraser avec de l'ail, de l'oignon, sel. Et comme ça, on forme des boules avec la paume de la main. On l'écrase, comme ça, on a des petits. Après, on a juste à frire. Et au moment de les servir, avec une petite compotée d'haricots verts grillés.
Merci infiniment, Haruna So, donc chef cuisinier du restaurant La Résidence et le restaurant du Refugee Food Festival à Paris, dans le 12e arrondissement. Merci, Georges Abel.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup à vous. On mettra évidemment l'adresse de votre blog, Georges, puisque vous avez une adresse de blog, la recette qu'on va écrire, et puis tous les éléments pour pouvoir vous retrouver. Ouais. Haruna également. Vous êtes traiteur aussi, je crois, n'est-ce pas?
Je suis traiteur Esprit Teranga, ici à Paris. Pourquoi pas en Afrique de l'Ouest. J'en vois bien à Bamako ou à Dakar. Dans les écoles pour les cantines. Parce que je pense que l'Afrique de l'Ouest en a besoin pour ne pas perdre la bataille.
Merci à tous de votre fidélité. Êtes-vous prêts pour cette révolution alimentaire? Moi, j'ai envie de croire que la réponse, c'est oui. Merci en tout cas de vos commentaires que vous pourrez laisser. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette discussion, de ce débat, de cette envie de se bouger, en fait? N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, 33 6 43 16 15 66. On est là pour vous entendre et pour partager surtout. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. C'est Cécile Bonissi qui a réalisé ce Goût du Monde. Merci beaucoup à elle. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Prenez bien soin de vous.